Dominique Tremblay, salutations.
Bonjour Luc, comment ça va?
Ça va très bien, merci, et toi?
Ouais, pas pire.
Tu sais que quand je lis là, ce que Christiane explique pour te définir, je vois que tu es un ancien athlète paralympique. Tu es directeur des opérations pour la Fédération internationale de boccia. Tu n'es pas juste le petit conseiller, le petit staff member. Là, tu mènes toute la patente. Et...
Je suis directeur des opérations. Il y a deux autres directeurs, là, mais ouais, c'est ça.
J'ai aussi ajouté que tu es une des pierres d'assises du nouveau projet de Canalem On parle de sport. C'est quand même une belle carte de visite.
Tout ça fait en s'amusant, fait que c'est encore plus le fun.
C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, on veut parler des Jeux paralympiques qui vont débuter à peu près jour pour jour dans un an et surtout de l'accessibilité universelle qui souvent vient avec la tenue d'une compétition paralympique. À tout le moins, c'est ce que l'on dit. Mais je me posais la question... Est-ce que, en général, il y a vraiment des transformations là où ont lieu les Jeux paralympiques où ce qui est annoncé avant, toutes les bonnes volontés, plus souvent qu'autrement, c'est finalement des paroles en l'air?
Ben Luc, je trouve ça très drôle. On dirait qu'on se parle avant les entrevues, mais c'est même pas le cas. Parce que tu as parlé de ma vie d'athlète, puis pour répondre à cette question, je vais reparler dans mes souvenirs d'athlète. Je vais donner deux exemples. J'ai participé aux Jeux paralympiques de Sydney en l'an 2000.
Ouais.
Et j'étais en Australie en 1999 pour une compétition internationale qui servait de test pour le grand spectacle un an plus tard. Et on s'était promené et la gare centrale de Sydney, il n'y avait aucun ascenseur pour se rendre sur les plateformes. Pour prendre le train, pour aller se promener dans les différentes plages et ainsi ailleurs dans la ville. Il fallait passer par en arrière, par les monts de charge, par des endroits qui sont pas très recommandables pour prendre le train. Un an plus tard, les Jeux paralympiques commencent et la gare centrale, toutes les plateformes sont accessibles par un ascenseur. Pas besoin de, les personnes à mobilité réduite et avec un handicap n'ont pas besoin de payer pour se rendre prendre le train. Donc, c'est le jour et la nuit entre l'avant Jeux paralympiques et après.
Ça va pour les moyens qu'on vous donne pour vous rendre au village des athlètes et au lieu de compétition.
Non, c'est pas juste pour se rendre de village, parce que du village au site de compétition, on se promène dans des autobus nolisés, là. C'est pas, on prend pas le train comme n'importe quel citoyen à 9h le matin pour se rendre au travail, là. Tout est nolisé. Mais je te parle, quand on n'a plus de compétition, on va aller se promener, on va aller fêter, on prend le train. La gare centrale est accessible.
Wow, OK.
Un autre exemple, aux Jeux paralympiques d'Athènes en 2004. Encore une fois, on veut faire du tourisme. Athènes, c'est quand même une belle place.
Ouais, ouais.
On veut visiter l'acropole. Si je te parle d'acropole d'Athènes, est-ce que tu penses que c'est accessible pour les personnes en fauteuil roulant?
Ben, en fait, on pourrait. Si on se fie à ce qu'on nous dit à Montréal, ben c'est historique, ce sont des vieux bâtiments patrimoniaux, on ne peut pas toucher à ça. Alors je te dis, ben non.
Ben, ils ont construit un funiculaire qui part de la base de la montagne, qui monte jusqu'en haut de la colline où se situe l'acropole. Et on a pu visiter tous les sites historiques du mieux possible.
Ouais.
Je te dirais pas que c'est 100% accessible, mais j'ai pu aller aux toilettes, j'ai pu visiter les sites, j'ai pu voir le petit musée qu'il y avait sur place. C'est déjà pas pire. Et la même chose pour à Pékin en 2008. Ils ont rendu une portion de la muraille de Chine accessible grâce à un mélange d'ascenseurs / funiculaires. Évidemment, on n'a pas accès aux centaines de kilomètres de la muraille de Chine, mais on a à peu près... 300 pieds, 400 pieds, ouais. Qu'on peut voir la grandeur de ce monument-là, qui est quand même quelque chose à voir, là. Puis en étant une personne à mobilité réduite, ben, ou en fauteuil roulant, ben, si les Jeux paralympiques n'avaient pas été là, je suis pas convaincu que ça aurait été le cas.
J'ai des souvenirs que Rick Hansen, dans sa Man in Motion World Tour, avait été sur la muraille de Chine, mais c'est peut-être justement un 25 pieds, quelques photos juste pour montrer que c'est ça, c'est possible. Parlons de Tokyo. Ce qu'on lit, en tout cas, est assez prometteur. Est-ce que l'année supplémentaire va même permettre à Tokyo de s'accessibiliser encore plus ou, bien, somme toute, on rattrape le temps perdu à cause de la COVID, la construction, accuse du retard?
Bien, il y avait déjà mis en place des réglementations pour améliorer l'accessibilité de la ville de Tokyo. Donc, le transport en commun, que ce soit autobus, train, métro, ils veulent que ce soit accessible. Il y a aussi une loi qui a été placée pour modifier. Il y avait une loi qui disait qu'une chambre d'hôtel par hôtel devait être accessible. Maintenant, c'est 10% des chambres d'hôtel qui doivent être accessibles. Mais depuis le 20 mai dernier, ils ont modifié leur loi en anglais qui veut dire barrier-free law, donc la loi d'enlèvement des barrières, mais que ce soit pas juste lié aux édifices ou aux rampes, aux ascenseurs ou ainsi de suite, mais que ce soit aussi qu'on enlève les barrières au niveau de l'esprit. Donc, on change la perception [S2] Wow. [S1] De la population en général. Donc, ils ont mis en place un programme d'éducation scolaire pour que la personne handicapée soit un peu mieux acceptée dans l'ensemble du pays.
Mais on aurait pu penser qu'avec la tenue des Jeux de Nagano en 98, que déjà cette perspective-là avait changé.
Ben, j'ai parlé pour me préparer à cette entrevue-là une personne qui s'appelle Mika Matheson, qui est chargée de projet au Centre de recherche et de fondation de support paralympique à Tokyo, qui était aussi un athlète aux Jeux de Nagano en ski de fond, et maintenant s'occupe de du programme d'éducation que je te parlais. Et les Jeux de Nagano a permis de modifier la perception d'athlète. Donc, avant Nagano, c'était plus la pauvre personne handicapée qui fait du sport. Là, ils sont plus reconnus comme athlètes. Okay. Donc, que tu sois en fauteuil roulant ou une personne avec une canne blanche, tu es un athlète comme quelqu'un qui n'a pas d'handicap. Maintenant, ce qu'ils veulent changer, puis ce qu'ils vont dire que les Jeux de Tokyo ont été un succès, c'est que dans la société, la personne handicapé est une personne à part entière.
Et ça, évidemment, bon, on ne pourra pas le savoir le lendemain là, des Jeux. Donc, ça va prendre un certain temps avant de savoir si la tenue des Jeux paralympiques aura été un succès. Là.
Évidemment, ouais. Ça va prendre le temps, des études. Puis si la direction dans laquelle les Jeux paralympiques ou le Comité paralympique international se dirige, c'est de changer les perceptions de la personne handicapée avec comme outil, les Jeux paralympiques.
Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut construire sur les expériences passées et on semble voir que d'une compétition à l'autre, que ce soit à Londres où on a donné beaucoup de billets, où les stades étaient pleins, où la population s'est rangée derrière les athlètes qui étaient là, on peut présumer que donc chaque Jeu paralympique, si c'est le moindrement bien fait, vont modifier tant physiquement que, disons, moralement, le pays au complet. Là.
Du moins, c'est l'espérance qu'on essaie d'atteindre. Ouais. Est-ce qu'on va y réussir? Ça ne se fera pas du jour au lendemain, comme tu as dit tout à l'heure, mais on est dans la bonne direction. Puis le Comité paralympique international prend les bonnes disposition pour s'y rendre, du moins, de ce que je peux voir personnellement dans mes différents travaux.
Dominique, je ne veux pas te prendre au piège, mais on associe souvent le Japon à nouvelles technologies. Est-ce que tu sais si, justement, on va peut-être tester des choses qui vont rendre l'accessibilité encore plus présente là-bas?
J'aimerais être capable de répondre, mais j'étais supposé me rendre à Tokyo une semaine après l'appel de la pandémie. Donc, tout ça a été annulé. J'aurais été capable de voir ça de visu, mais malheureusement, ça a été annulé et remis à plus tard. Je suis pas capable de répondre à cette question-là. J'ai vu des choses sur Facebook, mais est-ce que c'est des choses qui vont se matérialiser un an plus tard? On verra, vu qu'ils ont été obligés de couper dans les budgets.
Ouais.
Mais je vais pouvoir plus te répondre précisément là, dans un an.
Mais on peut présumer que des compagnies privées vont quand même tenter le coup. Là. C'est une belle vitrine pour eux d'essayer des prototypes de véhicules autonomes ou des prototypes de ci ou de ça. En tout cas, ce sera à suivre.
Et, oui, ce sera à suivre.
C'est sûr qu'on va.
Puis je sais que de ce que j'avais vu, c'est que si je me souviens bien là, les lits, par exemple, vont être en carton. Donc, ça va être recyclable. C'est une avancée peut-être technologique, on verra comment ça va tenir, mais c'est l'une des exemples des avancements qu'on pourrait voir.
Aller s'entraîner si fort et si longtemps pour dormir dans un lit de carton.
Ah, mais des fois, on peut être surpris avec ce qu'on est capable de faire.
Ouais, je sais pas si c'était ça le but et l'objectif de ces athlètes-là, par exemple. Dominique Tremblay, merci beaucoup!
Merci!